Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue à En toute bonne foi. Je vous remercie de votre fidélité avec un auditoire toujours plus important. Je voudrais aussi remercier les éditeurs qui me font confiance et me permettent de découvrir de nouveaux livres chaque semaine. Donc merci de tout cœur aux éditions de l'Emmanuel, les éditions Résiac, les éditions du Parvis, Pierre Tecky, éditeur, qui vient de publier « On n'est jamais trahi que par les siens » du père Zanotti Sorkin, que j'ai la joie de revoir aujourd'hui. Bonjour mon père.
Bonjour chère France.
Alors mon père, vous êtes accompagnateur d'une communauté de laïcs qui est dans un ministère de rencontres et vos émissions au Canada, 5 émissions par mois, ont toujours autant de succès sur la chaîne TVA, le TF1 du Canada, quelque chose qu'on n'imaginerait pas du tout en France.
À moins qu'on nous le demande.
Oui.
Mais c'est vrai que les télévisions ne nous demandent pas toujours d'intervenir. Et là, il s'agit justement de 5 homélies par mois. Et je suis très heureux de pouvoir les offrir à nos frères québécois.
Et nous pouvons les retrouver en France ?
Oui. Sur,
alors dites-nous.
Sur mon site et puis aussi sur le site de cette émission qui s'appelle La Victoire de l'Amour.
Très bien, merci beaucoup mon père. Alors, merci de revenir, puisque j'avais eu la joie de vous accueillir dans le cadre d'une autre émission il y a un peu plus d'un an et demi. Aujourd'hui, votre livre s'intitule « On n'est jamais trahi que par les siens ». Là, on se dit « Oups !» Mais le sous-titre est, et il éclaire le titre, « Sommes-nous fidèles à Jésus-Christ ?» Alors, votre livre, je l'attendais, mon père, je l'espérais même, j'espérais qu'il arrive un jour. On sait qu'avec vous, il n'y a pas de langue de bois, mais vous dites toujours les choses fermement et avec douceur. Merci mon père de l'avoir écrit, nous en avions besoin, je pense que nombreux sont ceux qui l'achèteront et iront au combat de l'annonce avec un grand A. Alors dans votre livre, comme toujours, vous faites danser les mots qui sous votre plume deviennent un ballet souvent dramatique mais où l'amour est toujours présent, la miséricorde aussi et la folle espérance y vit aussi. Vous dites mon père qu'il faut être proche pour trahir dès votre propos. Donc, on rentre vraiment dans le vif du sujet.
Oui, si vous voulez, le premier qui a été trahi, disons, qui tient à notre cœur, c'est tout de même le Christ. Il faut se rappeler quand même qu'il a gardé près de lui celui qui allait permettre son arrestation. Et on pense aussi à Saint-Pierre, qui quand même s'est conduit d'une manière abominable, si je puis dire, parce qu'il aurait pu peut-être intervenir pour essayer d'amoindrir le sort du Christ. Donc, le Christ a été trahi, comme chacun d'entre nous, nous le sommes. Vous voyez, samedi dernier, j'étais à Angers pour une journée de dédicace, et j'étais très frappé en voyant cette foule qui passait devant le stand où j'étais, en voyant le titre du livre, tout le monde disait « ça c'est bien vrai, ça c'est bien vrai ». Mais la vraie question, c'est de se demander aujourd'hui, est-ce que moi, d'abord moi, mais aussi tous ceux qui me liront, nous ne trahissons pas le Christ dans ce qu'il nous a donné en propre ? Parce que c'est ça qui est important. Ce qu'il nous a donné, qui est tout à fait particulier, qui n'a rien à voir avec l'esprit du monde, qu'est-ce que nous en faisons ?
Alors, dès le premier chapitre, vous appuyez où ça fait mal, aimez-vous les uns les autres. Sans vous raconter ma vie, je dirais que c'est pas facile. Et parce que lorsqu'on est catholique plutôt engagé et que l'on espère travailler de concert avec l'Église, c'est très difficile. On se sent même parfois rejeté, comme si nous empiétions sur un territoire alors que le but est de s'entraider et de s'aimer. Donc, on peut ne pas se sentir aimé. Donc, il est important de le redire, même si nous le savons, aimons-nous les uns les autres. Vous avez une jolie phrase qui dit « Nous ajoutons souvent bémol plus que force dièse à la partition des engagés de l'amour fou. »
Exactement. Si vous voulez, l'amour, c'est quand même... il se décline de multiples manières. Mais il va de l'indulgence totale au pardon absolu. Et malheureusement, aujourd'hui, il faut bien dire les choses comme elles sont, on ne prêche pas toujours ces vérités-là. Si vous voulez, quand même, ce que le Christ nous a apporté, mais d'une manière très forte, vous allez me dire que c'est inaudible. C'est d'ailleurs ce qu'on me dit très souvent. Mais je réponds toujours, mais aimer les ennemis, bénir ceux qui nous ont maudits, détester l'argent, ce sont quand même des réalités que le Christ nous a demandé de vivre. L'indulgence absolue, le pardon accordé aux coupables, évidemment, que nous sommes le plus souvent les uns et les autres. Et vous voyez, et tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà la problématique de mon livre et ce que je voudrais essayer de redonner à mon propre cœur, parce qu'il faut quand même que je le booste aussi, hein, et puis le cœur de tous ceux qui se disent les amis du Christ. Que faisons-nous avec toute cette réalité qui est une folie? Il faut bien dire ce qui est. Aimer les êtres d'une manière démesurée, c'est beaucoup plus éprouvant que de se mettre dans les bras de la justice.
Il faut déranger Dieu, dites-vous.
Oui, parce que lui-même s'est dérangé. Quand on pense à ce que représente l'incarnation, c'est quand même quelque chose de très fort. André Malraux disait d'ailleurs que le supplice de Dieu ne connaît pas d'équivalent dans aucune religion. C'est immense, Dieu s'est soumis à la mort et il a voulu, avec ses gestes, avec sa bonté, être au milieu de nous, nous montrer comment il fallait vivre. Alors que faisons-nous, nous, de ce que nous sommes?
Au milieu de l'histoire de la résurrection de la fille de Jaïr, sans en avoir l'air, vous sortez une punchline, comme on dit maintenant, qui m'a beaucoup marquée. Jésus, trop humain pour Dieu.
Dans la tête des autres, dans la tête de ceux qui le regardent vivre. Vous savez, le Christ, oui, il s'est laissé déranger, ça c'est très clair. Vous voyez, quand il est en train de prêcher sur les bords du lac de Tibériade et qu'on vient lui annoncer Jaïr, le chef de la synagogue lui dit « ma petite n'en peut plus », il a une foule considérable devant lui, il laisse tout tomber et il part avec ce père de famille éploré. Si vous voulez, on voit là qu'au-delà de la parole, ce qui compte pour Jésus, ce sont les actes d'amour. C'est ce que nous faisons concrètement pour les êtres.
Les gens ne peuvent pas le considérer comme Dieu parce qu'il est trop humain?
Par moments, évidemment, ceux qui étaient autour de lui ne pouvaient admettre cette présence, cette remise en cause, parce que vous savez, il est quand même venu remettre en cause 2000 ans de judaïsme, c'est-à-dire la manière dont nous vivions, dont les hommes vivaient la loi de Moïse. Voyez, donc on le trouvait trop humain, il frayait avec les pécheurs, il mangeait avec des gens qui avaient besoin de lui, car je rappelle que Jésus a dit « Je suis venu sauver ce qui est perdu ». Il ne faut jamais perdre de vue le mouvement rédempteur du Christ. Il n'est pas venu distribuer des bons points. Il est venu dire ce qui est perdu, c'est-à-dire mes enfants perdus, et vous êtes tous d'une certaine façon perdus, je viens vous sauver. Je ne suis pas venu condamner le monde, mais le sauver. Il faut, voyez, ça aussi, c'est ce que Jésus est venu donner en propre. Et si tout d'un coup, nous recommençons à faire le camp des purs, le camp des impurs, le camp des bons, le camp des méchants, le camp des indignes, le camp des dignes, je peux vous dire qu'on n'a rien compris à ce que le Christ nous a donné et nous a demandé de vivre.
De nos jours, se pose aussi cette question. Un homme ne peut pas être Dieu. À l'époque, on le voyait très bien avec les apôtres, et maintenant, je dirais que c'est presque encore pire. On ne peut pas imaginer la chose.
Oui, évidemment, parce qu'on ne la reçoit pas dans la foi. C'est vrai que c'est difficile de penser. Imaginez, vous êtes devant un homme et il est le Dieu éternel. Donc c'est quand même très difficile, mais personne n'aurait pu inventer ça. D'ailleurs, là, nous détenons en quelque sorte la preuve que c'est la vérité. Parce que personne n'aurait inventé ça, parce que c'est, vous voyez, le monde musulman, le monde juif, personne ne peut imaginer qu'il y ait un lien aussi fort entre le Dieu impassible et l'homme passible. Donc ça, c'est vraiment notre cadeau. Le Christ est venu montrer, Dieu est venu montrer à travers son Fils comment nous devions vivre et ce qu'il attendait de nous.
On reconnaît l'artiste que vous êtes aussi, mon père, dans cette phrase qui pourrait sembler anodine mais qui est si vraie. Le ton serait aussi déterminant dans l'annonce de la foi que son contenu. Dans votre chapitre sur le toucher, vous évoquez l'importance du contact. Vous ne comprenez pas que nous utilisions notre téléphone dans lequel nous aurions un missel numérique, par exemple, pour suivre la messe. Vous revenez sur ce sujet aussi à la fin de votre livre, sur le sujet « Le culte du virtuel ne doit pas effacer la réalité ».
Mais oui, écoutez, je ne suis pas le premier à le dire, mais malheureusement, il faudrait qu'on soit vraiment très offensif.
Mais c'est très pratique quand même.
Mais oui, mais il y a toujours des apports. Et même pour venir jusqu'ici, évidemment, je me suis servi de mon téléphone. Pour
ne et pas... nous avons échangé par téléphone pour
voilà,
les codes.
Voilà, nous avons échangé. Non, mais si vous voulez, je ne suis pas en train de dire tout cela ne vaut rien, mais il faut quand même être vigilant. Parce que quand vous pensez que les jeunes passent Non, mais les vieux aussi.
Mais oui, bien sûr.
Et puis on se laisse tous prendre, mais pendant des heures et des heures au bout du fil pour visionner des petites vidéos qui ne régleront jamais rien comme question fondamentale. Alors on dit oui, mais vous voyez, 20% des baptêmes que nous avons eus cette année, nous les devons aux réseaux sociaux. Tant mieux. Et Dieu sait si je me réjouis de voir tous ces êtres qui avancent vers Dieu. D'accord. Mais en attendant, ils ont peut-être passé 4 heures par jour à regarder ces petites vidéos et bien d'autres choses. Et là, c'est du temps perdu. Vraiment, c'est du temps perdu parce que je pense que la personnalité ne peut pas se développer de cette manière-là. Les goûts artistiques, voyez par exemple, par le passé, tout le monde faisait un peu d'aquarelle, tout le monde où on jouait du piano, de la guitare, et on rencontrait des êtres, on rencontrait de vrais amis. Tenez, je vais vous raconter quelque chose qui vient de me marquer. Oui. Je viens de célébrer une messe pour les mécènes du Vatican. C'était à Menton. Bon, là, j'ai rencontré des gens tout à fait merveilleux, même certains qui n'avaient même pas la foi, mais qui donnent de leurs deniers pour que des toiles du Vatican soient restaurées. Parmi eux, il y avait une jeune urgentiste médecin. Elle venait de recevoir une gamine de 15 ans, accompagnée de sa mère. Cette gamine, elle était pratiquement dans le coma. On n'arrivait pas à la réveiller. Elle m'a dit, je l'ai examinée, j'ai regardé de près, le cœur battait normalement. Et puis, tout d'un coup, elle a eu cette idée, donnez-moi son portable. Elle a pris son portable et cet enfant de 15 ans avait parlé 20 heures avec une amie, puis avait visionné des vidéos pendant 20 heures. Donc elle n'avait pas dormi, elle n'en pouvait plus. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Alors oui, on dit attention, si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous êtes satellisé. C'est vrai. Mais peut-être qu'il faudra en revenir à avoir 3-4 amis, mais de vrais amis qui ne vont pas vous trahir.
Alors là, les 20 heures, quand même, le problème se pose, un problème d'éducation
pose quand même. Oui, mais ils ne peuvent plus rien faire. Je reçois moi des parents, vous savez, je rencontre énormément de monde, avec des enfants de 12 ans, ils ne peuvent pas leur enlever le portable, sinon ils menacent de se jeter par la fenêtre.
Mais il ne faut pas leur donner à 12 ans.
Oui, mais il ne faut pas leur donner, mais en attendant, ils l'ont. Et s'ils ne l'ont pas, ils disent, mes parents sont complètement à côté de la plaque, et je vais faire le contraire, et moi je vais m'en procurer un par derrière. Mmh. Non, mais vous savez, aujourd'hui, un enfant de 12 ans, il n'a plus 12 ans, hein. Et donc, nous sommes dans un système où il faut que l'Église soit devant pour le dire. Vous voyez, nous suivons trop. Il s'agit que ce soit nous qui disions « attention, ça c'est... » On met en garde. Il n'y a pas assez de mise en garde. Je me permets de dire cela parce qu'il en va de la construction d'une personnalité humaine. Mais je vous dis, les vieux que nous sommes aussi dans le même purin. Mmh. Hein? Mais si vous voulez, donc, il y a un enjeu. D'abord, la relation humaine aussi est en danger. Donc, je veux dire, mais tout le monde est là, enfermé dans sa chambre, en train de regarder ses portables. Donc, au bout d'un moment, il faut dire, il y a un danger. Mais l'Église doit le dire.
Oui. Nous allons faire une petite pause et revenons tout de suite après.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Vous parlez de l'appauvrissement, mon père, de se servir de deux doigts au lieu de la main.
Oui, bah écoutez, ça, enfin, c'est une image.
Mais elle est parlante.
Oui, voilà, oui. Je crois qu'il faut qu'on soit conscient. Je parle d'ailleurs de la prière sur les smartphones. Mais bien sûr, ça peut arriver à tout le monde. Et à moi le premier, je suis dans le métro, je n'ai pas dit mon office. Tac, c'est pratique, mais on sent très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Oui. Alors, ce fameux toucher, vous en parlez, j'ai beaucoup aimé ce chapitre, et est née une réflexion. Il y a le côté tactile dont on a peur maintenant, parce que le geste peut être mal interprété. Du reste, vous le dites dans votre livre, qu'il ne faut pas hésiter à prendre quelqu'un dans ses bras. Mais le fait qu'il y ait ce recul maintenant, presque imposé par la société, fait qu'on ne peut pas se laisser toucher par le Christ.
Aussi, mais aussi par les personnes humaines. Oui. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est il y a ce filtre, du coup, qui forme peut-être comme un blocage. Et donc, la transcendance ne nous touchera pas.
Peut-être qu'il y aura un lien entre ces deux réalités. Mais ce qui est en danger, quand même, c'est quand même le vrai rapport humain, ce que le Christ a fait lui-même. Quand vous pensez, il a pris un corps, donc ce n'était pas parce que ce corps était mauvais, sinon il n'aurait pas pris, et il s'en est servi. Énormément, jusqu'à mourir. Mais, si vous voulez, je le revois avec l'aveugle-né, hein, quand même, ça va quand même très loin, il prend de sa salive, il fait de la boue, mais sa salive, il la met dans la bouche de cet homme. Je veux dire, mais on ne peut pas aller plus loin. Mmh. Alors nous, on ne va pas faire un geste comme celui-là. Mais il faut accepter de toucher la main de quelqu'un, de prendre, de serrer quelqu'un dans ses bras, un petit enfant aussi qui a besoin d'être caressé. On sait très bien que les enfants qui ne connaissent aucune vie affective de ce point de vue-là, de leur père ou de leur mère, finiront par être déséquilibrés. Il y aura un très grand manque. Il ne faut pas immédiatement suspecter le geste. Voilà.
Oui.
Bien sûr qu'il faut un geste pur. Il faut toujours faire attention. Mais attention, ces gestes existent, ils sont humains, donc ils sont divins.
Mmh, oui. Il y a une phrase très Zanotti Sorkinienne, si je puis me permettre. Vous dites, il traite en médecin le corps pour réveiller des âmes.
Oui, ça, notre Christ, bah, écoutez, c'est ça. Il s'occupe du corps et, parce qu'il n'aime pas la souffrance. Il faut quand même le répéter sans cesse. Et puis le voir lui-même sur la croix, il a été sujet à la souffrance. Mais si vous voulez, quand il résout comme ça un problème important dans un corps, c'est pour dire aussi, je suis là, faites-moi confiance.
Oui. Vous parlez de cette jeunesse, un renouveau, des jeunes qui osent, vous le voyez au quotidien?
Bien sûr, alors écoutez...
Dites-nous ce que ça vous inspire, parce que c'est quand même incroyable, il y a un souffle.
Oui, mais écoutez, oui. C'est vrai, c'est tout à fait vrai, mais moi de toute façon ça fait des années que je vois que j'oserais dire, mais ne m'en voulez pas de dire cela, mais l'évangélisation c'est assez facile. Je vous assure.
Bon,
oui, mais Jésus a dit lui-même.
Mais parce que vous avez ce charisme, je vous ai vu dans la rue, parler aux gens, la manière dont vous serrez la main. Une fois nous prenions un café, vous avez commencé à discuter avec la serveuse. Voilà, c'est pas donné à tout le monde,
mais
mon père.
Mais si, je vous assure, chère France, ça s'appelle ça le charisme de la bonté. Et tout le monde l'a, il faut la réveiller, bien sûr, au fond du cœur, mais tout le monde est capable de se dépasser pour essayer de s'intéresser aux autres, mais pas comme une démagogie. Sinon, nous ne sommes pas bénis par Dieu. Oui, celui-là, c'est un gros poisson, je vais l'attraper. Pas du tout. Dieu ne veut pas de ça. Il veut qu'on aime profondément les personnes. Et c'est à ce moment-là que par cette onde d'amour, ce que nous portons en nous crée une confiance qui permet l'accueil de ce qui nous fait vivre nous-mêmes. Mais voyez, moi, je pense... Jésus l'a dit d'ailleurs, il a dit « Regardez, la moisson est blanche, allez-y ramasser ». Alors, les jeunes qui se lèvent aujourd'hui, moi j'en suis extrêmement heureux. Tous ces baptêmes dont nous avons évoqué tout à l'heure. Mais en même temps, soyons bien prudents.
Oui.
Toujours parlons de notre remise en cause. Pour ma part, chère France, je crois que si nous sommes très fidèles au Christ, mais alors, attention, dans les profondeurs de ce que l'Évangile nous donne, si nous sommes très fidèles, il y aura des fruits énormes. Si nous faisons alliance avec des idées qui viennent du monde, ce qu'on va donner, ce sera, pardonnez-moi, mais raplapla. Mmh. Ça sera la tiédeur, ça ne marche pas et ça n'attire pas. Les jeunes aujourd'hui ont besoin de beaucoup d'idéal. Il faut donc soulever notre vie et montrer jusqu'où elle doit aller, c'est-à-dire au fond jusqu'au martyr. Il y a beaucoup d'échecs qui vont produire beaucoup de fruits. Vous voyez,
oui.
Par exemple, dans toutes ces questions qui regardent l'amour du coupable, ça quand même le Christ nous l'a demandé. C'est-à-dire, les coupables sont ses enfants. Il faut dire les choses comme elles sont. Eh bien, si nous jouons cette carte, mais positivement, en disant « Je suis un miséreux moi-même, je suis un misérable, moi-même, si je me regarde bien, je vois ma propre misère, donc je vais comprendre celle de l'autre. » On va dire « Non, mais attendez, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous bénissez le mal ?» Mais pas du tout. Mais si on vit comme le Christ, eh bien, comme ferait une maman d'ailleurs, elle dirait, vous savez, mon fils, d'accord, c'est un criminel, c'est affreux ce qu'il a fait, mais mon fils, il est plus grand que ça, moi qui le connais. Eh bien, si nous vivons comme ça, il y aura de grands résultats. Parce qu'un jour ou l'autre, chacun est affronté à sa propre misère et sera heureux de recevoir ce regard de miséricorde et de pardon.
Vous le dites bien à la fin de votre livre et vous pensez peut-être même qu'on va vous le reprocher de parler si directement.
Oui, mais on va me le reprocher. Moi, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il faut mettre hors d'état de nuire les personnes qui peuvent faire du mal. Ça va de soi, n'est-ce pas? Mais il faut aller plus loin aussi que cela et ne pas enfermer les êtres dans les actes mauvais qu'ils ont commis. Et si nous vivons comme ça, nous sommes au Christ. Mais si nous ne vivons pas comme ça, nous le trahissons. D'où mon fameux titre, on n'est jamais trahi par les siens. Jésus, malheureusement, se trouve trahi. C'est pour ça que j'espère que ce livre, qui appelle à une remise en cause profonde de nos comportements, sera largement lu. Je le souhaite de tout cœur. Vous comprenez que ce n'est pas l'argent que je gagne avec ce livre. On ne gagne jamais sa vie en faisant des bouquins. Ce n'est pas ça. Le but, c'est de faire passer une vérité dans le cœur des hommes.
Oui, je me demande si c'est facile dans ce monde polarisé quand même.
Ben oui, mais vous savez, c'est un monde qui a toutes les informations, mais qui ne va pas à l'essentiel. Ça me fait penser au père Perrin, vous savez, qui était le père spirituel de Simone Veil, la philosophe.
Oui.
Et je me rappelle qu'il m'avait dit, tu te rends compte, cette femme que je viens de recevoir, elle est documentaliste, elle fait le dossier de presse de son maire depuis 30 ans, et elle ne savait pas que Dieu était amour. Vous voyez, c'est ça, on ne connaît pas. L'évangile, d'ailleurs, est absent de la vie. Regardez, cette semaine, vous savez, j'ai rencontré un très grand professeur de lettres de la Sorbonne. Et il me raconte ceci, en année de licence, 40 gars et filles devant lui, et je ne sais plus quel auteur il leur présentait, et il leur a parlé du Samaritain. Il a dit, mais qui est le Samaritain? Personne ne savait. Il y a un petit qui s'est levé et qui a dit « je crois qu'il est gentil ». Et puis il y a une fille, une antillaise, ou une fille qui a dit « je crois que c'est dans la Bible ».
Ah oui.
Alors il m'a dit « heureusement j'avais apporté le texte ». Oui, il est bien hein, ce prof.
Oui, il est bien.
Et puis il a lu le texte et a dit « voilà ce qu'est le Samaritain ». Donc vous voyez, moi, cette fameuse remise en cause, mais attention, je suis le premier à me remettre en cause parce que je vois la difficulté. Mais il faut la vivre, sinon nous sommes infidèles au Christ.
Alors, peut-être que ceux qui connaissent la Samaritaine, leurs parents ne souhaitent pas qu'ils aillent à la Sorbonne.
Mais bon, ben, nous verrons. Mais je leur souhaite de rencontrer un professeur comme ça.
En tous les cas, oui. Oui. Ne jugez pas, dit le Christ, mais comment faire travailler son intelligence sans esprit critique? Impossible de se faire un avis sans jugement?
Le jugement, vous savez, il y a quand même tout un panel où nous sommes libres de juger des situations.
Mmh.
Je ne sais pas, moi, la soupe est trop chaude, le rôti n'est pas cuit, on y va. Mais sur les personnes, on n'a pas le droit. Mais d'ailleurs, c'est un commandement du Christ.
Oui, mais mon père, évidemment qu'on porte un jugement sur certaines personnes, sinon on laisserait nos enfants fréquenter n'importe qui.
Oui, mais attention, sur n'importe qui, il faut être sûr que ce soit vraiment n'importe qui. C'est-à-dire que là aussi, si on globalise comme ça, si on généralise, cette personne, elle n'a aucun moyen, d'ailleurs même elle, d'avancer. Non mais, vous me parlez des enfants, ça c'est une question d'éducation, et puis les enfants ne sont pas capables.
Bon alors on va dire un sujet un peu piquant, non mais je ne peux pas aller à cette messe-là, je ressors, je suis en colère.
Mais alors non. Moi, le conseil que je donnerais dans ce cas-là, ça serait d'aller voir le père qui a fait cette messe, si on est sûr de ce qu'on dit, et si réellement ça n'est pas simplement une question de sensibilité, mais qu'il a vraiment touché quelque chose contre la foi, alors là, on va le voir, et on lui dit, père, on a été un peu déstabilisé par ce que vous avez dit ou ce que vous avez fait. Mais il n'y a pas de jugement de la personne. Vous savez que la phrase du Christ, il a mis une clause, il y a un contrat. Il y a un contrat, ne jugez pas, et la mesure que vous prendrez, je la prendrai avec vous. Alors vous allez me dire, oui, mais il faut quand même, oui, mais attention, avec toujours au-dessus de la tête, ce commandement. Et ça va nous éviter quand même, sans doute, de faire quelques bêtises. Combien de fois ça m'est arrivé, moi, où sur le premier moment, vous recevez quelqu'un, pendant le premier quart d'heure, vous dites quand même, il est complètement à côté de la plaque, et puis tout d'un coup, dans le quart d'heure qui reste, il vous parle et vous vous dites, mais quelle merveille de personne, j'aurais même pas été capable de faire ça. Vous voyez, donc Jésus dit, vous ne pouvez pas juger parce que vous ne pouvez pas atteindre l'intention de la personne. Mais cette question du jugement, je suis d'accord avec vous, chère France, c'est ce qu'il y a de plus haut et de plus difficile à vivre dans l'Évangile. Ne jugez pas, parce qu'on n'atteint pas ce qu'est l'être, vous savez, et puis qui sommes-nous? Alors, vous allez me dire, il y a bien des situations où on peut intervenir et où on doit intervenir, mais sans atteindre la personne, sans la détruire, disons.
Oui, mais on se sent forcément attaqué.
Voilà. Mais parce que vous avez essuyé, comme moi aussi, des jugements qui étaient erronés. Non, mais je ne sais pas si vous avez fait cette expérience.
Oui, bien sûr.
Mais moi, je dis moi, vous savez, je ne me mets pas en avant parce que c'est commun. Mais j'ai subi des injustices. Mais les faits semblaient parler contre moi, mais c'était beaucoup plus compliqué que ça. Donc, il faut faire très attention.
Terminons avec le pardon.
Ben voilà, le pardon, écoutez.
Pourquoi ne pardonne-t-on plus?
Parce que c'est beaucoup plus difficile que de tailler des parts de cachot. Vous comprenez? Pardonner, Alors on va dire, oui, mais vous savez, c'est très difficile, surtout quelqu'un, quand une personne a été profondément blessée, c'est très difficile, mais nous sommes d'accord. Mais il n'empêche que le Christ a dit, vous devez pardonner de grand cœur en plus.
Oui.
Il ajoute même de grand cœur. Mais ce pardon, il est très difficile à donner parfois. Et c'est pourquoi je crois que Jésus, quand il était cloué sur la croix, les bras ouverts, en signe d'accueil pour le monde entier, il a prononcé une parole qui peut nous aider certaines fois, quand il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Mais on peut l'étendre. Alors on n'arrive pas nous-mêmes à pardonner parce que quand même, ça a été terrible. Eh bien, on peut dire, Père, pardonne-lui, pardonne à cet homme, pardonne à cette femme. Elle ne sait pas ce qu'elle a dit, il ne sait pas ce qu'il a fait. Et c'est déjà énorme. On met, si vous voulez, le pardon dans le cœur de Dieu pour qu'il le fasse à notre place parce qu'on n'y arrive pas. Mais il faut, si l'Église ne présente plus le pardon comme une donnée fondamentale, c'est pas le monde qui le fera. Le monde, il est pour la guillotine. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, le pardon est en péril. Et actuellement, à travers tout ce que l'on entend, parce qu'en ce moment, c'est le règne de la justice.
Oui.
On prend les brebis galeuses et on les balance. Eh bien, en ce moment, il faut que l'Église, c'est-à-dire tous les baptisés, hein, je ne parle pas que de la hiérarchie, mais tous les baptisés appellent au pardon. Si on ne le fait pas, nous ne sommes plus chrétiens.
Merci beaucoup, mon père.
Mais c'est moi, chère France, qui vous
nous
remercie.
Nous avons une belle minute ensemble. Je rappelle le titre de votre livre, « On n'est jamais trahi que par les siens, sommes-nous fidèles à Jésus-Christ ?» Nous accueillons le père Michel-Marie Zanotti-Sorkin, qui a donc édité ce livre chez Pierre Tecky, éditeur. Bonne semaine.